Revue de presse avec Philippe Gault.
Philippe, bonjour. L'Europe et ses divergences font la une de la presse ce matin, et notamment les relations franco-allemandes.
Oui, les 27 se retrouvent aujourd'hui à Bruxelles, mais selon le Figaro, les Européens se divisent sur les prix de l'énergie. Et ce sommet ne décidera certainement pas d'un plafonnement des prix du gaz et de l'électricité, faute d'initiative et de consensus avec l'Allemagne, qui n'est pas favorable à ce dispositif que recommandent pourtant la France et une quinzaine de pays de l'Union Européenne. Des accords qui provoquent pour les Échos un coup de froid entre Paris et Berlin, les deux partenaires historiques entre lesquels rien ne va plus, selon Libération, au point qu'une rencontre bilatérale prévue la semaine prochaine a été repoussée. Pour Philippe Gély, l'éditorialiste du Figaro, cette divergence ne constitue que la partie émergée d'un iceberg de plus en plus massif, celui du cavalier seul de Berlin, ce solo writer allemand qui a toujours été la norme. À noter que ce sommet de Bruxelles sera le dernier auquel assistera Mario Draghi, européen convaincu, ce qui n'est pas vraiment le cas de Giorgia Meloni, qui lui succède à la présidence du Conseil italien.
Hier, la première ministre Elisabeth Borne a donc déclenché le 49-3.
Oui, et ça fait parler sur les unes de nos journaux qui rivalisent de formules choc ce matin. L'Opinion parle du triomphe de la force, le télégramme de passage en force, tandis que le Figaro estime qu'Elisabeth Borne tente d'habituer l'Assemblée à la méthode forte, à contrario de la Marseillaise qui la voit utiliser l'arme des faibles. Dans la même veine lexicale, l'Humanité y voit un aveu de faiblesse qui devient avis de faiblesse à la une de Libération qui consacre 3 pages à ce moment des motions, les motions de censure, s'entend. Paul Quignot, l'éditorialiste de Libé, voit dans cette séquence l'hésitation du duo exécutif dont le gant de fer s'est effiloché au fil des jours alors que son gant de velours est resté au vestiaire, enfin pour la Provence. Ce 49-3 est le premier d'une longue série.
Car effectivement, nous abordons le budget de la sécurité sociale, donc à propos du projet de loi de finances, et ça va recommencer.
Eh oui, le budget de la sécurité sociale contre lequel opposition et professionnels sont vent debout pour le Figaro, et notamment à propos de la question des déserts médicaux, autour de laquelle il y a, selon les dernières nouvelles d'Alsace, des tensions en vue avec les députés qui vont passer à l'offensive, c'est le titre du Républicain Lorrain. L'Opinion consacre un dossier complet à ce sujet, rappelant, selon un rapport du Sénat, qu'un Français sur 3 vit dans un désert médical et que le nombre de médecins généralistes, ils sont 52 000, a diminué en moyenne de 1% entre 2017 et 2021. L'Opinion qui évoque la troisième voie prônée par l'exécutif et le Parlement qui, plutôt que de contraindre ou d'inciter les praticiens dans les déserts médicaux, souhaite faire confiance à d'autres soignants répartis sur tout le territoire. Ce serait donc à terme la fin du statut de médecin traitant et du fameux parcours médical qui s'avère, on le sait bien, souvent sinueux, voire parfois sans issue.
Et puis nous avons dans la presse ce matin, Philippe, un nouveau rapport qui met en cause le fonctionnement des EHPAD.
C'est le Parisien aujourd'hui en France qui révèle une enquête de la répression des fraudes selon laquelle une maison de retraite sur 2 utilise des pratiques commerciales trompeuses et des clauses abusives. Un constat affligeant quelques mois seulement après le scandale Orpea. Parmi les manquements recensés dans cette enquête qui a mobilisé les agents de la DGCCRF pendant 3 ans, ce sont les pratiques commerciales trompeuses qui interpellent. Le Parisien cite notamment cet établissement qui annonce des chambres avec vue sur jardin alors qu'elles donnent sur un parking, ou un autre qui dispose soi-disant d'un jardin thérapeutique alors qu'en fait il ne s'agit que de 3 pots de fleurs. Mais ce n'est rien à côté des dépôts de garantie colossaux réclamés souvent, supérieurs au montant du tarif mensuel d'hébergement. Mais à quelque chose, malheur est bon, le scandale Orpea va peut-être enfin faire évoluer la situation dans les EHPAD, qui seront désormais contrôlés tous les 2 ans, sachant, comme l'a révélé la Cour des comptes, que ces contrôles n'avaient lieu en moyenne que tous les 20 ans, et rarement de manière inopinée.
Et puis nous revenons donc, après Guillaume Tabar, sur les nouvelles fonctions de Jean Castex.
L'ancien Premier ministre qu'Emmanuel Macron a proposé hier pour remplacer Catherine Guillouard à la tête de la RATP, choix qui va être entériné par les commissions parlementaires compétentes. Un retour à la vie durable, titre joliment l'Opinion, qui estime que Jean Castex, 5 mois après son départ de Matignon, va renouer avec les difficultés aussi bien techniques que politiques. Concurrence, préparation des Jeux Olympiques, grève, ce sont quelques-uns des défis, selon le Figaro, que le Gersois devra relever, à commencer par un contexte social tendu et des syndicats qui attendent Jean Castex de pied ferme, nous indique le Parisien. Des syndicats qui se disent peu convaincus par ce choix. Le délégué UNSA de la RATP estime ainsi, je cite, que Monsieur Castex est peut-être un passionné du ferroviaire, mais il ne brille pas par sa connaissance des transports publics. Le représentant du petit syndicat base souligne, lui, que Jean Castex n'a jamais jamais dirigé une grande entreprise et que sa nomination serait le signe d'une mainmise de l'État sur la RATP. Concernant l'enjeu olympique, la légitimité de Jean Castex ne fait aucun doute puisqu'il a été, rappelez-vous, délégué interministériel chargé des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2017 à 2020.
Voilà, on l'a connu à l'Écho des Savanes, il est devenu célèbre en passant à Canal+, et puis il a écrit des romans populaires sur l'histoire. C'est Jean Tellet qui nous a quittés hier à 69 ans.
Oui, je me contenterai pour rendre hommage à ce dessinateur de BD devenu, vous l'avez dit, homme de télévision puis écrivain, romancier du passé, comme le qualifie joliment Libération. Il a succombé mardi à une crise cardiaque suite à une intoxication alimentaire. Donc je rappelle qu'il était le compagnon de Miu Miu depuis 20 ans. L'actrice, raconte le Parisien, fantasme de l'adolescent Jean Tellet qui disait à tout le monde, lorsque le film est sorti, que la femme idéale pour lui, c'était la meuf des valseuses.
Il est 8h39, nous allons écouter justement quelques mots de Jean Tellet parmi les derniers livres qu'il avait publiés. Il eut une biographie de Baudelaire qui n'a pas forcément plu aux puristes parce qu'ils considéraient que Baudelaire était le premier punk de l'histoire, mais qui a connu un succès populaire. Évidemment, Jean Tellet.
Un jour, Baudelaire était en visite d'une église à Namur, l'église Saint-Loup, avec son éditeur et un jeune peintre belge. Et en passant le portail, en sortant de l'église, il a loupé une marche et il a basculé en avant. Il est tombé sur le front en disant « Crénom ». Et ça, quand on a été l'Everest de la poésie française, terminer sur un mot pareil, c'est quand même un peu con.
Voilà Jean Tellet, donc, et nous adressons évidemment à sa compagne et à sa famille, eh bien, tous nos sentiments les plus chaleureux dans cette période dramatique. 8h40,